Quoi?
Morais live.
Extraordinaire, si je peux dire comme ça.
Avec Dominique Morais. Live. Radio X.
Oui, bonjour, ça va bien. Excellento, ça va très, très bien. Vous écoutez Morais Live, émission numéro 1 Québec. Entre les 18 et 64. Moi, c'est sûr que j'ai pas gâté ben Jacques et Louise au cours des dernières années. Ne vous en déplaise. Bon, on les salue, les Boomer X qui sont à l'antenne. Philippe J. Fournier, comment ça va?
Bonjour, M. Morais. Très content de vous parler ce matin.
Très content, puis on aura l'occasion de se parler à tous les lundis jusqu'au vote. Je trouve ça intéressant. La projection que vous avez sur votre site ce matin, c'est QC 125. Allons voir la projection. On est dans le minoritaire PQ. Vous avez combiné et le léger et le synopsis. Ça donne 48 PQ. PQ qui baisse. PQ qui n'a pas la majorité. Je pense qu'ils l'ont déjà eu. Ça prend 64 sièges pour une majorité. Les libéraux en baissent 31 sièges. Et la CAQ en montée avec 28 sièges. Question, est-ce qu'on assiste vraiment, selon vous, à une véritable remontée de la CAQ?
Il n'y a pas vraiment de doute que dans les données que la CAQ remonte. Maintenant, la question, c'est l'amplitude de la remontée. Et ça, je ne pense pas qu'on va voir nécessairement un consensus à court terme entre les sondeurs, ce qui est tout à fait normal. Les sondages, c'est une photo du moment. Et des fois, quand on prend une photo d'un objet en mouvement, c'est difficile de mesurer l'amplitude. Alors, j'ai bien hâte de voir. Il va y avoir un nouveau sondage aujourd'hui de la Maison Palace. Je ne l'ai pas vu encore, mais je l'attends d'une heure à l'autre. Et bien sûr, Palace, c'est une des firmes qui fait un suivi au Québec depuis plusieurs années. Et donc, Léger, Synopsis et la Palace, moi, c'est les trois firmes vraiment que je vais suivre. Et la semaine passée, on a vu Léger et Synopsis voir la même tendance, mais à différentes amplitudes pour voir qu'est-ce qui va se passer. L'échange d'électeurs entre le PQ et la CAQ est vraiment fascinant.
OK, à surveiller. Donc, dans les prochaines heures, le Palace qui serait publié quoi par... Habituellement, c'est l'actualité qui publie ça. Hein?
D'habitude, c'est l'actualité, mais cette fois-ci, Palace va le publier par lui-même. J'imagine, si je le reçois en premier, je vais le mettre sur mon infolettre, QC125.ca, et je vais le mettre disponible à tous. Mais je n'ai pas encore de nouvelles. Je sais que c'est juste que ça va être aujourd'hui.
Dans l'analyse que tu fournis, Philippe J. Fournier, ça dit que Rive-Nord a surveillé PCQ. Ça va bien, là. Le PCQ demeure stable à 11 sièges. Mais quand même, tu détectes une hausse abrupte des appuis de la CAQ, Rive-Nord de Québec.
Et ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, il y a une dynamique électorale spéciale quand on a 5 partis, n'est-ce pas? C'est pas comme à 2 partis ou 2 partis et demi comme c'était il y a 2 décennies. C'est que la CAQ était morte et enterrée à Québec il y a quelques mois. Ben, en fait, partout au Québec, mais particulièrement dans la capitale nationale. Et si on voit les chiffres grimper de la CAQ, ben, disons qu'elle passe de 12 à 18 ou 20 %, c'est en fait une bonne nouvelle pour les conservateurs d'Éric Duhaime parce que ça divise le vote et ça pourrait ouvrir d'autres circonscriptions. Mais si la CAQ continue de monter et n'est plus à 20 % mais peut-être 28 ou 30 % ah ben là, soudainement, ça complique la donne. Et je sais que présentement, c'est un record ce matin quand je regarde ma projection. Il y a 127 comtés au Québec, j'en ai 33 qui sont des pivots. Et d'habitude, mon score, c'est ma 20e élection au Canada. Et quand je mets une étiquette pivot, j'ai raison 65 % du temps, ce qui veut dire que j'ai tort un tiers du temps. Alors, pour l'instant, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et ça comprend la région de Québec à cause des chiffres qu'on a vus la semaine dernière.
OK. Puis quand tu dis pivot, peut-être le décrire aux gens. Pivot,
oui,
ça peut aller d'un bord comme de l'autre.
Pivot, ça veut dire qu'en fait, les données nous indiquent que c'est une égalité statistique, que peut-être qu'il y a des dynamiques locales que l'on rate, mais selon les données disponibles, Il y a deux ou trois partis qui sont à l'intérieur de 5 points projetés, ce qui fait que le troisième pourrait gagner et ma projection serait encore bonne statistiquement. Alors que, bien sûr, des fois, c'est complètement fou quand il y en a autant des courses serrées, y compris à Québec.
Revenons à Éric Duhaime et à son parti. On a donné l'indication, je crois que c'est dans le léger, qui pourrait faire une percée dans le coin de Victo. Ce qui n'est pas surprenant parce qu'à un moment donné, ils ont semé des graines en Arthabasca, mais à un moment donné, quand tu sèmes, ça pousse. Donc, ce discours-là est en train de percoler. Est-ce que tu sens la même chose qu'on va défoncer le genre de mur aux alentours de Laurier Station, puis un mur également sur la Rive-Nord à la hauteur, mettons, si on va dépasser Donnacona. Est-ce que ça, ça pourrait faire une tache d'huile ou au contraire, pour l'instant, ça demeure stable? Beauce, Lévis, Québec.
C'est tout à fait possible. Et si les sondages internes de M. Duhem et de son équipe indiquent qu'il y a plusieurs comtés qui vont être remportés le 5 octobre, on peut changer les ressources de place. Et moi, je regarde la circonscription de Champlain en Mauricie. Et comme vous l'avez dit, Nicolet, Bécancour, Athabasca, l'Érable et même Drummondville, Bois-Franc, je regarderais ça dans le centre du Québec. C'est peut-être des long shots, comme on dit en anglais, mais je pense que s'il y a une division forte du vote entre la CAQ et le Parti québécois, c'est pas impossible que le Parti conservateur puisse se faufiler. Et quand je parle de circonscription pivot, ça veut dire, surtout des courses à trois, ça veut dire que dans certains comtés, 32 ou 33 % du vote pourrait être suffisant pour l'emporter. Alors, quand c'est le cas, peut-être, oui, ça vaut la peine de déplacer des ressources, avoir plus de bénévoles qui vont aller cogner aux portes, qui vont faire sortir le vote. Et oui, c'est possible. Je dirais qu'évidemment que moi, je me concentrerais sur Québec et Chaudière-Appalaches, mais si en fin de campagne, ils voient que ça va bien, regarder l'Est de la Mauricie et le centre du Québec, ce serait une très bonne idée.
Est-ce que le PQ est dans le trouble?
M. Morin, est-ce que vous connaissez l'équation du bonheur? Il y a une équation du bonheur. Et l'équation du bonheur, c'est les attentes moins la réalité. Est-ce que le PQ est dans le trouble comme il était en 2022? Bien sûr que non. Mais le PQ, ça fait 3 ans qu'il s'attend de gagner. Ça fait 3 ans qu'il se prépare à gagner. Et là, on dirait que ça glisse. Et ça glisse. Dans ma projection, le PQ est encore premier chez les francophones, encore le premier dans les banlieues de Montréal et Laurentides de la Naudière, compétitif à Québec. Il est en bonne position, mais les chiffres bougent et ils ne bougent pas dans la bonne direction pour le Parti québécois depuis plusieurs mois, pas juste dans la dernière semaine. Alors, si votre attente, c'est de gagner l'élection, oui, vous devriez être nerveux si vous êtes un péquiste en regardant les chiffres ce matin, parce que clairement, il y a un plafond que le Parti québécois n'arrive pas à percer autour de 30 % il ne suffirait encore que... Je veux dire, si les sondages de cette semaine, on attend un palace aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un léger soit demain ou mercredi. Si les chiffres qu'on a vus de synopsis vendredi, c'est-à-dire une égalité statistique entre le PQ et la CAQ, si ces chiffres-là sont remesurés par d'autres firmes de sondage, soudainement, on ne parlera pas de PQ peut-être finir premier, mais peut-être finir troisième, derrière la CAQ, derrière les libéraux. Alors, je ne dis pas que ça va arriver, mais présentement, c'est tout à fait possible que le PQ l'échappe.
On est dans une drôle de campagne où c'est carrément Donald Trump qui a été casté comme étant un adversaire. Alors que, puis comme je le disais à Éric Duhem précédemment, lui arrive avec des arguments économiques. Vous avez le PQ en fin de semaine sorti avec des graphiques. Donc, on fait appel à l'intellect, on fait appel à l'intelligence des gens avec l'immigration. Vous avez la CAQ qui fait référence à l'émotion. Vous avez peur, je vais vous protéger. Donald Trump est l'ennemi, je suis là pour vous. C'est dur à gérer une campagne comme ça quand tu as un groupe quand même important d'électeurs, je parle ici des boomers, des personnes âgées, qui ont carrément la trouille, Philippe Giffournier, ils ont la trouille et vraiment, Fréchette réussit à peser sur les bons boutons jusqu'à maintenant.
À tort ou à raison, moi, mon argument, puis évidemment, moi, je n'irai pas dans les éditoriaux, je vais rester dans les chiffres, mais ce que je vous répondrai, M. Morin, là, c'est que si les conservateurs et le Parti québécois n'ont pas vu ça venir et ne se sont pas préparés, ben c'est entièrement de leur faute. Parce qu'en effet, Donald Trump et les négociations Canada-États-Unis qui ne vont pas bien depuis plusieurs semaines, ils auraient dû avoir une réponse. Peut-être qu'il va y en avoir une cette semaine. Mais d'aller dans l'émotion peut fonctionner, mais il y a plusieurs façons d'approcher cette guerre tarifaire. Et j'ai comme l'impression que la CAQ essaie de changer la question de l'urne. Pour l'instant, ils ont réussi, du moins la première fin de semaine, ils ont réussi. Le PQ et les conservateurs doivent se préparer à ça. Parce que les tarifs et les contre-tarifs vont faire mal à plusieurs industries. Alors, s'ils n'en parlent pas, évidemment que l'attention va être détournée vers ceux qui en parlent.
Je n'ai pas parlé encore du Parti libéral, c'est le temps, j'en parle. sont en baisse. Donc, c'est une campagne coup-ci, coup-ça. Et vous réduisez leur marge, en fait recul à 31 sièges en moyenne, c'est ce que vous avez écrit sur votre site. Et il y aurait un transfert de vote vers la CAQ, c'est ce qu'on semble observer. Oui, ça sera confirmé, verra-t-on, dans les prochains sondages. Vous en dites quoi?
Je dis que le Parti libéral est un peu coincé et aussi a fait des erreurs d'amateur en n'étant pas prêt. Et ça, c'est pas vraiment... Et là, je vais faire attention à ce que je dis parce que je ne pense pas que c'est de la faute de Charmilliard, mais clairement, l'équipe libérale semble ne pas être prêt pour cette campagne-là. Et ça fait juste commencer. On est quoi, le jour 3, le jour 4? Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de soubresauts qui s'en viennent. Bien sûr, la semaine prochaine, il va sûrement avoir des contre-tarifs qui vont être implantés. Et donc, ça pourrait changer la donne. Pour le Parti libéral, encore une fois, l'équation du bonheur, c'est quoi? Vos attentes. Si vous avez des attentes que le PLQ puisse gagner l'élection, vous risquez d'être déçu. Mais il y a 4 ans, le PLQ a eu la pire élection de son histoire depuis la Confédération. Alors, si vous êtes du côté que moi, je veux que le Parti libéral se reconstruise, se repositionne, gagne peut-être une 40aine de sièges, forme une opposition forte, ça, c'est bien, c'est encore dans les cartons. Mais il faut gérer les attentes en politique. Et bien sûr, quand on monte dans le ring, on veut juste gagner, mais des fois, il faut s'attendre juste à avoir une bonne performance. Vous savez, les Canadiens, après 2021, là, il y avait besoin de reculer, faire des bons draft picks, puis revenir. Pour le Parti libéral du Québec, moi, ce que je vois pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de progression chez les francophones, mais ils pourraient faire des gains par rapport à la dernière élection, et ça, ce n'est pas rien pour eux.
OK, dernière question, QS, il arrive quoi? Oui. Non, mais ça, ils sont allés dans le populisme à fond. Oui, il y aura des épiceries un peu partout au Québec pour concurrencer les maxis de ce monde, là. Mais quand même, t'en dis quoi dans ton analyse, ça dit quoi?
Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que dans les chiffres de vote, QS n'a pas grimpé et n'a pas descendu. C'est stable, c'est autour de 9-10%. Mais dans la projection de siège, pour ceux qui suivent ça quotidiennement, QS a monté. Alors, on m'a posé la question, mais comment c'est possible que QS a monté? C'est que ses deux adversaires principaux, c'est-à-dire le PQ à Québec et les libéraux à Montréal, ont baissé dans les derniers sondages. Et donc, par défaut un peu, Québec solidaire, en se maintenant stable, a récupéré quelques sièges dans la projection. Évidemment, ça pourrait ne pas durer. Mais Québec solidaire, pour l'instant, je les ai à 9 sièges. Je pense que c'est un peu haut, mais ce sont des sièges qu'ils détiennent déjà. Et donc, si le vote est divisé, que les libéraux faiblissent à Montréal, il y a une ouverture pour eux.
OK. Donc, Palace aujourd'hui, dans quelques heures. L'échantillon respectable? Parce que Synopsis, oui. L'échantillon n'était pas extraordinaire. C'est sûr qu'en même temps, Léger est arrivé avec un 11 000 d'échantillons. Là,
ah, mais attention, le 11 000 d'échantillons, c'était en fait tous les sondages qu'ils ont menés cet été qu'ils n'avaient pas publiés, qu'ils ont combiné ensemble. Les dates de terrain étaient du 12 juin au 24 août. Oh. Donc, c'était pas un sondage, mais une combinaison de sondages qui permettait d'avoir des chiffres régionaux intéressants, mais pas plus que ça. Le Synopsis de mémoire avait 1000 répondants, et quand on a 1000 répondants et plus, c'est tout à fait respectable pour un sondage québécois. Okay. Palace, d'habitude, c'est toujours autour de 1100 ou 1200.
Et un Léger, peut-être jeudi, à suivre.
Même, peut-être avant ça, même. Le Journal de Montréal, je m'attends mardi ou mercredi.
OK. Philippe J. Fournier, merci beaucoup.
Toujours un plaisir, merci beaucoup.
Merci, bye-bye. QC 125. Oui, je vais juste closer comme du monde. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Je vais closer comme je close.
Je sais, c'est
depuis
moi,
20
là,
ans. Non, c'est Philippe J. Fournier, donc, de QC 125. Allez consulter. C'est pas l'Évangile. C'est pas... Il n'y a personne qui a la vérité, OK? On est en campagne, là. On est en élection. Ça fluctue. Il y aura des débats. Dernière nouvelle, il n'y a pas eu de débat encore. Les débats nationaux, ça influence énormément. Tu as le débat sur le débat, donc le placotage au Normandin. Moi, j'appelle ça le placotage. Ouais, qui a gagné? Ah, c'est vrai, dans le fond. Je ne l'ai pas vu de même. Donc ça, ça influence beaucoup. Puis par la suite, vous avez le sprint de fin de campagne. Ça influence beaucoup. Et au niveau régional, si vous avez des vedettes, entre guillemets, là, je fais toujours attention au terme vedette. Là. Parce que des vedettes, pour moi, une vedette, c'est Katy Perry et Taylor Swift. C'est des vedettes, faut... C'est Claude Villeneuve, c'est une vedette. Non, tu sais, mais... Gary, c'est pas une vedette, mais aux yeux des partis politiques, c'est des gens connus, c'est ça que je veux dire. Des gens connus, donc à haute notoriété. Un Dumas, par exemple, c'est quelqu'un de connu. Donc ça, moi, je pense que ça peut influencer. Dans une tribune comme Radio X, si vous avez un Dumas contre Biron, par exemple, et dépendant de la performance de l'un ou de l'autre, ça peut peut-être faire un petit déclic. Ça, je dis pas que c'est un game changer, mais je pense que ça peut changer. Donc, voilà pour ce qui est des élections. Frank s'en vient dans pas long. Et Donald, es-tu arrivé? Il s'en vient, j'imagine.
Oui, il doit être là.
Parfait. 8h02, très courte pause. Restez là, vous êtes à Radio X.
Morée. Le sentez-vous? Live. Ouais! On vous revient dans pas long. Radio X.